Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Vendredi, le tribunal international chargé de juger les crimes commis par les Khmers Rouges au Cambodge entre 1975 et 1979 a condamné à la prison à vie deux hauts dirigeants de l'époque pour génocide. Un verdict qui fait histoire, puisque c'est la première fois que ce terme de génocide est retenu pour d'anciens Khmers Rouges. Pourquoi seulement maintenant? Où en est aujourd'hui le Cambodge, 40 ans après les faits? Bonjour Hugues Tertrais, vous êtes historien, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, fondateur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine, et vous avez notamment publié encore entre le 8e et le 19e siècle, Mémoire et identité Khmer. Alors tout d'abord, il faut rappeler ce qu'a été ce terrible épisode, qualifié donc de génocide au Cambodge entre 1975 et 1979. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé des choses tout à fait terribles, mais je voudrais d'abord commencer par dire que cette question du procès renvoie justement à l'histoire du procès, qui ne se confond pas avec l'histoire des Khmers Rouges, qui ne se confond pas complètement avec l'histoire du Cambodge dans cette période que vous avez caractérisée.
Alors, on va tout expliquer, notamment pour les auditeurs les plus jeunes, Hugues Tertrais. Tout d'abord, le génocide cambodgien, pouvez-vous nous dire en quoi il a consisté, de quoi s'agissait-il?
Il s'est agi d'une initiative du pouvoir Khmer Rouge qui prend les rênes du pouvoir au Cambodge le 17 avril 1975 et qui tout de suite prend des initiatives du type de vider la ville, vider Phnom Penh, envoyer tout le monde à la campagne et réorganiser une population à partir de là. Suppression de la monnaie, suppression des moyens de communication, donc une situation radicale, une révolution agrarienne, pourrait-on dire, et tout à fait terrible, et qui a fait tout de suite un certain nombre de morts, bien sûr, et qui en a fait de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait.
Avec un bilan absolument terrible, il faut le rappeler, Tertrais.
Le bilan, les chiffres qui circulent font état d'un 1,7, 1,8 à 2 millions de morts, ce qui est assez considérable.
Pour une population d'environ 7 millions d'habitants.
À peu près. Ouais.
Ce qui montre effectivement que c'est le meurtre de masse le plus terrible en proportion de ce qui a été commis au XXe siècle. Et on en compte beaucoup. Alors, la différence entre ce qui s'est passé au Cambodge et ce qui a pu se passer en Arménie ou bien encore avec les Juifs d'Europe, c'est que là, il s'agit d'une population qui est exterminée par son propre gouvernement.
C'est ça la difficulté. Et c'est vrai que devant cette situation tout à fait hors norme, les qualificatifs se bousculaient au point de départ. On ne sait pas très bien comment qualifier les choses, sauf que c'était terrible et qu'il fallait trouver des mots terribles. Donc là, le mot génocide ne convient pas pour les raisons que vous avez indiquées. C'est vrai qu'il avait été créé en 45 ou 44, je ne sais plus, pour la population juive, rétroactivement pour les Arméniens, et du coup, on n'avait rien de disponible, si j'ose dire. C'est à ce moment-là, en 78, je crois, que le journaliste Jean Lacouture, qui connaît très bien la zone, a essayé d'inventer le mot d'autogénocide. Alors, est-ce que c'est valable ou non? Je ne sais pas. Toujours est-il que la question qui occupe ici, les Khmers Rouges n'ont pas été poursuivis pour génocide. Le mot n'apparaît pas jusqu'à présent. Ils étaient poursuivis pour crime contre l'humanité. Le mot génocide, ce n'était qu'à la marge, mais c'était quand même dans le procès, mais à la marge pour les populations minoritaires, Cham ou vietnamiennes.
Et oui, parce que c'est une mosaïque de populations, le
Beaucoup
Cambodge.
Moins que les pays voisins.
C'est pour mais ça que beaucoup c'est plus que d'autres pays quand même.
Certes, mais ça surprend quand même, parce que le Cambodge, ce sont les Khmers, et il y a assez peu de place pour les minorités, en fait. Donc, cette question du génocide des minorités est passer un petit peu à la trappe. Mais en même temps, permettait à tout le monde de se retrouver sur l'idée d'un génocide.
Un tribunal spécial a été créé, Hugues Tertrais, en 2003 pour juger les responsables de ce génocide cambodgien. Comment a travaillé ce tribunal avec un contexte très compliqué?
Absolument. Il a travaillé, d'abord, le point de départ a été difficile. Tout le monde n'était pas d'accord avec l'existence de ce tribunal. Certains y voyaient la possibilité d'une réconciliation, d'autres au contraire de nouvelles fractures dans la population cambodgienne. Et le tribunal a mis du temps à se créer, à se mettre en place et à fonctionner une fois qu'il était en place comme un tribunal, si je puis dire, normal, c'est-à-dire avec des procureurs, des avocats, un président, des audiences et des témoins naturellement et des accusés. Des accusés relativement peu nombreux puisqu'il y a eu 4 dossiers, finalement 4 prévenus pour 2 dossiers principaux. Le premier dossier, c'était un certain Douche qui était le responsable de la prison dite S21.
L'une des prisons principales situées à Phnom Penh.
Oui, je vais y revenir si vous voulez, parce qu'en fait c'est un cas un peu spécial que cette prison, c'est Tuol Sleng, c'est la prison politique du régime. Donc ce qui s'est passé dans cette prison politique n'est pas nécessairement significatif de ce qui s'est passé dans tout le pays. Mais ça existait bien sûr. Donc il y avait 4 prévenus principaux. Sur ces 4 prévenus principaux, un couple, Yeng Sari et son épouse, Yeng Tirit, Yeng Sari, ancien ministre des Affaires étrangères, est décédé, donc en 2013, donc son dossier a été retiré, son épouse, considérée comme démente, a été également écartée, il restait à 2. C'est ça qui fait un peu problème, si j'ose dire, 14-15 ans de procès, pour au final 2 condamnés.
Et ce que l'on se dit, évidemment, Hugues Tertrais, c'est que l'épuration au Cambodge, elle n'a pas véritablement eu lieu. C'est-à-dire que l'appareil gouvernemental au plus haut niveau, il est aujourd'hui absolument non épuré de ces Khmers rouges.
Un petit peu. Disons que on va sans doute dans les années prochaines revenir à tout ça. Pour parodier un titre de film, je crois qu'il y a plusieurs nuances de Khmers rouges au Cambodge. Et donc, en effet, par exemple, Hun Sen, qu'on accuse souvent d'être un ancien
qui aujourd'hui est le chef,
qui est le premier ministre, s'est rallié depuis longtemps à la cause adverse, mais il n'est pas le seul. Je dirais qu'au niveau local, il y a forcément un certain nombre de petits chefs ou de moins petits chefs qui sont passés par les Khmers Rouges. Donc il y a, je crois, eu beaucoup de porosité entre les mondes et on va redécouvrir ça progressivement.
Une dernière chose, Hugues Tertrais, puisque vous venez de parler d'Hun Sen, le premier ministre, qui est là depuis de nombreuses années. Peut-être est-ce aussi l'occasion de rappeler que le Cambodge est aujourd'hui assez éloigné du modèle démocratique.
Oui, comme les pays de la région d'ailleurs.
C'est important de le dire.
C'est pas très très neuf. La Thaïlande, le Vietnam, les pays malais sont en gros dans le même cas. Donc Hun Sen, effectivement, qui est le premier ministre d'une monarchie constitutionnelle, c'est le fils de Sihanouk qui est à la tête, Siamoni, est considéré comme l'homme fort, et c'est vrai qu'il semble s'être arrangé pour les élections législatives de juillet dernier à faire de son parti le parti quasiment unique du pays, donc il a quasiment tous les pouvoirs. Je dirais quand même là-dessus que il est encore loin de la longévité politique d'un Sihanouk, par exemple, qui entre le moment où il a commencé, où il a été désigné en 41 et son abdication en 2004, a quand même régné ou a été à la tête du dossier pendant 63 ans.
Merci Hugues Tertrais. On peut lire de vous l'Asie pacifique au XXe siècle.